assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois Philippe Verseille. Alors, je ne vais pas vous lire le CV de Philippe, sinon on y sera encore la semaine prochaine. Le CV résume une vie active au service de l'Église et de ses missions. Maintenant, Philippe est à la retraite, mais si vous vous imaginez qu'il se consacre à la culture des petits pois, vous faites erreur. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été pasteur de paroisse et pendant vos heures libres, vous avez réalisé des foyers de jeunes, accueil des SDF, quelques maisons de retraite. Vous avez installé une structure éducative, fondé un groupe international. J'en passe, vous nous direz s'il y a d'autres choses que vous voulez évoquer. Ensuite, on vous retrouve dans le domaine international au DEFAP. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et puis, envoyé spécial en Haïti. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le DEFAP?
Oui, effectivement, mon CV est un peu long, non pas parce qu'il est vraiment intéressant, mais parce que j'ai un parcours qui est un peu divers. J'ai commencé par être effectivement pasteur de paroisse et animateur de jeunes quand j'avais l'âge de l'être. Je dois dire que j'étais un pasteur sévenol avec tout ce que ça veut dire de positif, mais aussi d'enfermé et d'enfermant. J'ai eu la grande chance et l'opportunité à un moment donné d'être un peu par hasard envoyé au conseil de la CEVA. Alors la CEVA, c'est...
Oui, il faut définir.
Oui, la CEVA, c'est la structure qui a fait suite à la Société des Missions Évangéliques de Paris et qui, à la suite un petit peu du mouvement d'indépendance des églises et des pays aussi...
De la décolonisation.
De la décolonisation, mais ça a même anticipé l'indépendance des pays. Les églises étaient indépendantes. La structure de missionnaires s'est transformée en une communauté d'églises.
Oui.
En essayant de vivre sur des rapports qui soient des rapports égalitaires.
Et non plus protecteurs, paternalistes, missionnaires, bien sûr.
Donc, une structure qui s'est créée en 1971. Enfin, cette transformation s'est faite en 1971. Et en 1985, j'ai eu la chance d'être invité par hasard. Je ne vais pas raconter ce hasard, mais d'être délégué de mon église à ce conseil de la CEVA qui a eu lieu au Cameroun, dans une petite ville qui s'appelle Nkondjok. Dans le nord de Douala, et ça a été, j'allais dire, un vrai choc pour moi, une vraie découverte, une vraie ouverture. J'ai eu tout à coup, il y avait là dans cette réunion des délégués venant des églises du monde entier, beaucoup d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine, du Pacifique, et cet échange, cette rencontre, ce partage de difficultés, de préoccupations, de projets, je peux dire, c'est une vraie conversion, hein, dans le sens où ça m'a retourné, ça m'a vraiment ouvert à une dimension de l'Église, mais aussi de l'humanité, au fond, qui m'était assez étrangère.
Et qu'est-ce qui changeait par rapport au pasteur Sévenol, puisque vous avez parlé des points positifs et des points négatifs? Qu'est-ce que cette expérience en Afrique a mis en lumière au niveau du pastorat Sévenol?
Alors, j'allais dire auprès du Sévenol tout court même. C'est-à-dire que je dis les positifs et négatifs parce que je crois effectivement à la richesse aussi d'une transmission enracinée dans un territoire, dans une culture, dans une façon de comprendre et de vivre son rapport à la nature, aux autres, à Dieu. J'ai hérité tout ça dans cette culture.
On l'entend dans l'accent. Il y a un accent Sévenol.
Même si ma mère était suisse.
On n'entend pas l'accent suisse.
Mais donc voilà, c'est voilà que je trouve aussi riche effectivement d'une transmission, mais c'est aussi j'allais dire une limite de compréhension de l'univers et de l'autre, hein. Et c'est vraiment cette découverte d'autres façons de vivre, d'autres façons de comprendre, d'autres façons de prier, d'autres façons de se comporter, d'autres façons de se référer à son histoire. Et voilà, ça a été une vraie ouverture, au fond, qui m'a accompagné et qui a peut-être été le fil conducteur de mon parcours.
Et Haïti, c'était pareil quand vous êtes envoyé spécial en Haïti, c'est la même chose, c'est la même découverte.
Alors Haïti, c'est beaucoup plus tard,
oui. Hein,
puisque à Haïti, je suis parti en 2010 après le tremblement de terre.
Oui.
Donc j'avais déjà travaillé parce que donc après ce conseil de la CEVA en 1985, j'ai participé à un certain nombre de rencontres de cet organisme et puis j'ai travaillé au DEFAP qui est donc en fait qui regroupe les trois églises françaises qui sont membres de cette communauté internationale donc d'églises protestantes.
Alors, je vais essayer de résumer parce que moi j'ai beaucoup de mal avec CEVA et DEFAP et ça fait 40 ans que je suis dans le protestantisme et j'ai toujours pas compris. Alors, la CEVA, c'est une communauté internationale.
La CEVA, c'est la communauté internationale.
D'accord.
C'est l'association, la communauté qui regroupe, je crois que c'est 37 églises dans le monde entier, principalement en Afrique, dans le Pacifique et une en Amérique latine. Voilà, et c'est qui sont des églises qui étaient en lien en fait avec le protestantisme français, qui avait été créé ou qui était en lien avec le protestantisme français dès le 19e siècle.
Et le DEFAP, donc, c'est les églises françaises.
Voilà, au moment où s'est constituée cette communauté internationale, les trois églises françaises qui sont membres de cette communauté, donc de la CEVA, se sont dit on va continuer à travailler ensemble pour essayer de sensibiliser le protestantisme français sur cette dimension universelle de l'Église pour organiser les envois de personnes, pour organiser la récolte de fonds, la mise en place de projets qu'on va pouvoir partager avec les Églises, notamment avec ces Églises membres de la CEVA et aussi avec d'autres, dont Haïti, parce qu'Haïti ne fait pas partie de cette communauté internationale, l'histoire ne l'a pas permis, mais Haïti, c'est donc en fait le protestantisme haïtien a fait appel à la Fédération protestante de France juste après la chute de Duvalier en 1987, en Haïti, c'est un peu reconstitué la société civile et aussi c'est constitué une fédération protestante des églises d'Haïti.
Oui.
Et cette fédération a fait appel à la Fédération protestante de France. Et c'est comme ça que les liens avec Haïti se sont aussi liés avec le protestantisme français.
Et alors, DEFAP, vous dites trois églises françaises. Quelles sont ces églises?
Alors, ça a un peu changé, puisqu'avant, il y avait l'église réformée, l'église luthérienne.
Bon, alors maintenant, il n'y a plus qu'une.
Bon, il n'y a plus l'église protestante unie aujourd'hui. Oui. Là aussi, en Alsace, les églises se sont regroupées.
Ah, oui.
Donc, c'est lieu pâle. L'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine.
Oui.
Et il y avait, mais ils viennent d'en sortir, les églises réformées évangéliques ou l'UNEPREF, l'Union nationale des églises protestantes évangéliques de France, voilà, qui est une petite union d'églises.
D'accord. Et ils en sont sortis
Ils en sont sortis un peu pour des raisons théologiques, je pense.
Hein, ouais.
C'est à eux qu'il faudrait
demander. Oui,
mais
bien sûr.
Mais parce que c'est vrai que on a au sein de la CEVA et au sein du DEFAP une conception de la mission qui est une conception qui n'est pas, j'allais dire, une mission prosélyte, mais une mission de partager un certain nombre d'engagements, de réflexions,
de compréhension,
d'ouverture,
autres.
De travailler aussi avec d'autres, d'avoir une vision œcuménique même une dimension aussi interreligieuse de la mission en pensant qu'effectivement le Christ est présent partout et que nous ne détenons pas la vérité mais que nous sommes en marche ensemble pour un approfondissement de cette vérité qui nous échappe toujours.
D'accord, donc ça n'a pas marché, il y a une église donc qui n'a pas voulu...
Qui vient, ça c'est tout récent, qui
ah
vient
bon.
De décider de sortir du DEFAP Voilà.
D'accord.
Mais,
c'est
comme ça.
C'est comme ça.
C'est l'histoire ecclésiastique.
Voilà. Oui. Et alors, on vous retrouve aussi à la mission populaire, à l'entraide protestante, dans les prisons. Est-ce qu'il y a un seul domaine social que vous avez négligé ou que vous n'avez pas, ou dans lequel vous n'avez pas été intéressé? Question piège.
Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai eu une grande chance, en fait, hein, peut-être dans un temps, et puis aussi au sein d'une structure, au sein d'une église, qui m'a permis de vivre beaucoup d'engagements divers et d'avoir un certain nombre de responsabilités que certainement je n'aurais pas eu la chance d'avoir dans d'autres milieux, dans d'autres lieux, dans d'autres structures. Et voilà, c'est vrai que j'ai cette ouverture aux autres,
oui.
que je mets là dans cette rencontre particulière au Cameroun en 1985, j'allais dire c'est une ouverture à tous les autres.
Hein. Oui, oui.
En tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire
et
tout
c'est
à coup,
aussi le peut-être la facilité à saisir des opportunités sans avoir peur de l'inconnu, c'est peut-être ça dans votre caractère.
Oui, c'est certainement, c'est une curiosité,
ouais.
Mais c'est vraiment cette découverte que l'autre n'a jamais la même façon de voir que moi. Ce sont de multiples cultures qui se confrontent. On n'a pas la même culture quand on est dans le sud de la France ou quand on est en Alsace, quand on est dans un milieu bourgeois ou quand on est dans un milieu ouvrier.
Et à plus forte raison quand on est en prison.
Quand on est en prison, on a un rapport aussi à la vie, à la réalité, à la culpabilité, à l'ensemble des thématiques de vie qui sont les nôtres, qui sont différentes. Je raconte souvent cette histoire parce qu'elle était pour moi extrêmement marquante, mais elle est pour moi significative. La première fois où je suis rentré dans une prison, une personne a demandé à me voir, on s'est retrouvé, c'était la première personne que je voyais, on était assis en face d'une petite cellule. Et il m'a dit « Je suis là parce que je suis accusé d'avoir violé mon fils et de lui avoir transmis le sida. » Et littéralement, je me suis accroché à la table.
Hein. Ouais.
Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ?
Ouais.
Comment je peux recevoir ouais. cette parole ? Comment est-ce que je peux entendre ça ?
Ouais.
C'est quelqu'un que pendant il est resté, c'était une maison d'arrêt, donc il était là, il a quand même resté pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je l'ai vu toutes les semaines. Et je garde de cette rencontre avec cet homme un souvenir ému et fort parce que j'ai eu le sentiment d'un peu mesurer que les situations dans lesquelles on se trouve, que l'environnement dans lequel on est, ce que l'on a reçu, ce dont on a hérité, bien sûr ce que l'on choisit de faire aussi, détermine une façon de voir, de se comporter, de voir les autres, de parler, d'attendre de l'autre, d'attendre de Dieu aussi.
Mmh.
Et c'est vraiment ce qui est permanent. Et c'est vrai que cette dimension de rencontres interculturelles quand il s'agit de cultures exotiques,
oui.
c'est une chose, mais en fait, on le vit à tout moment.
Ouais. Hein,
et l'autre a toujours une culture différente.
Et donc, j'allais vous poser une question, mais je ne vais pas la poser, ou du moins, je n'attends pas de réponse, parce que finalement, ma question tombe à l'eau. Je voulais vous demander quel était le domaine dans vos actions qui vous plaît le plus. Puis finalement, dans votre réponse, vous montrez que tout s'intègre, que c'est le rapport à l'autre, à celui qui n'a pas eu les mêmes repères, et c'est ça qui vous intéresse, qui vous motive.
Oui, 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 je le dis comme quelque chose qui a été une vraie découverte pour moi, hein, ou en tout cas cette expérience au Cameroun a été un révélateur de ça. Et c'est vrai, en fait, je me rends compte après que tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu envie de faire des choses un peu différentes, un peu nouvelles, de me mettre aussi un peu en inconfort, parce que c'est quand on est un peu en inconfort qu'on n'est pas très sûr, qu'on s'interroge, qu'on ne sait pas trop.
Quelque chose de transcendant peut vous atteindre
et
plus facilement.
Qu'on est à l'écoute de quelque chose qui vient. Qui vient ou qui vient pas d'ailleurs, quelquefois. Mais en tout cas, que c'est là qu'on peut recevoir quelque chose. En tout cas, c'est vraiment mon expérience dans tout ce parcours. Et c'est vrai qu'en Haïti, je suis arrivé en Haïti dans un contexte qui est quand même extrêmement difficile. Alors, pas pour moi, mais pour les personnes avec qui j'étais, puisque il y a eu 250 000 morts en 35 secondes, quand même. C'est la pire catastrophe qui a existé au monde de cet ordre.
Ce tremblement de terre, c'était en
2010, le 12 janvier 2010. Partager ces deux ans avec ces personnes qui avaient vécu cela. J'ai acheté, moi, les journaux pour voir les photos, pour essayer d'avoir un tout petit peu, ressentir un tout petit peu ce qu'ils avaient pu vivre. Voilà. Ouais. Mais ça a été une expérience extrêmement enrichissante, extrêmement forte pour moi. C'est une expérience humaine et spirituelle qui a été extrêmement puissante.
Et alors, évidemment, ça... C'est un peu en décalage avec tout ce que vous venez de dire, mais l'expérience de pasteur de paroisse, ça vous a pas manqué dans dans toutes ces actions, la prédication, alors peut-être que quand vous étiez en Haïti et ailleurs, vous étiez aussi prédicateur. Je ne sais pas comment ça se passait.
Non, pas tellement. Non. J'ai alterné aussi dans des fonctions. Des fonctions différentes, c'est-à-dire des fonctions aussi un peu en institution, puisqu'effectivement, j'ai aussi été à la Fédération de l'entraide protestante, donc secrétaire régional de Arc Méditerranée. J'ai travaillé donc au DEFAP, en institution. J'ai été secrétaire général de la Mission populaire, mon dernier poste.
Je l'avais noté quelque part, mais bon.
C'est un engagement au niveau institutionnel, mais chaque fois, je me suis arrêté et j'ai eu besoin, quand je suis parti du DEFAP, à ce moment-là, j'étais aussi président du collectif des ONG de volontariat, donc j'avais beaucoup de propositions de travail, mais j'ai tenu à revenir en paroisse. En fait, j'avais besoin de revenir en paroisse parce que besoin de partager aussi quelque chose qui soit de l'ordre du quotidien avec les personnes.
Et comment on ressent les paroissiens français avec leurs petites histoires, leurs petites misères, leurs petites plaintes quand on revient de Haïti ou quand on revient du Cameroun ou de prison?
Vous savez, les Haïtiens ou les Camerounais, ils ont aussi leurs petites affaires, leurs petites histoires. Les personnes sont les mêmes ici à l'autre bout du monde. Pour moi, il n'y a pas de déception. J'ai jamais eu de déception de me retrouver. Alors, il y a parfois des situations. Et on vit aujourd'hui, je trouve, une époque où on sent qu'il y a quelque chose de pesant qui enferme les gens, qui rétrécit. Enfin, quand on voit l'extrême droite, on voit Trump élu, on se dit, mais voilà, on est dans un monde où effectivement les personnes se referment sur leurs petits intérêts.
Oui.
Voilà, mais c'est vrai ici, c'est vrai au bout du monde. Les préoccupations, les questions, les angoisses, les peurs, les souffrances sont les mêmes ici ou là-bas. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes, les histoires ne sont pas les mêmes. Il y a quelquefois effectivement des situations qui sont extrêmement violentes, mais ce n'est pas parce que les situations sont extrêmement violentes, parfois, que les gens sont plus malheureux que ceux qui vivent dans des situations plus confortables. La question du sens, de la dynamique de vie, de l'ouverture à l'autre... tout ça, c'est des questions qui, au fond, sont présentes dans tous les contextes.
Dans toutes les situations, d'accord. Alors, on va faire une pause musicale et on se retrouve ensuite pour évoquer des problèmes plus personnels.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
On se retrouve pour revenir aux sources, à vos sources, si vous voulez bien. Famille protestante, donc, j'ai cru comprendre, Sévenol.
Sévenol, fils de pasteur, petit-fils de pasteur, neveu de pasteur. Donc,
Et en Suisse aussi, c'était des protestants? Bah
alors, oui, c'était des protestants. Il faut que je raconte quand même, c'est une belle histoire. Pourquoi bon. Mon père, qui était aussi Sévenol, ouais. Quand il s'éloignait de Mialet, il avait l'impression d'être perdu. Et en fait, il était né en 26 et après la guerre, en 1946, il y a des familles suisse, pastorale suisse, qui accueillait des enfants de pasteurs français,
ouais.
pour qu'ils sortent un peu de ce contexte de post-guerre. Et mon père avait 20 ans, il est parti chez un jeune pasteur suisse. Ils ont bien discuté ensemble, et puis ce jeune pasteur a demandé à mon père de devenir le parrain de son fils, son premier fils, qui est né l'année d'après. Et il a demandé à sa belle-sœur d'être la marraine.
Ah, bah,
et
d'accord,
le
d'accord.
Parrain et la voilà, marraine se sont plus.
Okay. Alors justement, on va revenir dans les histoires d'amour tout à l'heure, mais là on continue. Donc la fac de Théo à Aix.
Faculté de théologie à Aix-en-Provence, oui, parce que donc j'étais moi pasteur et issu d'une famille dans l'Église réformée évangélique.
C'est ça. Et puis vous devenez réformé. Vous rentrez à l'Église réformée. Qu'est-ce qui vous a fait changer rapidement? On va pas faire un exposé doctrinal, mais en gros, qu'est-ce qui...
Oh ben en gros, c'est simple. J'ai divorcé, j'étais foutu dehors, donc c'est pas très compliqué. C'est la réalité.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai pas eu vraiment le sentiment de changer d'Église.
D'accord.
Parce qu'en fait, voilà, on était dans, à ce moment-là, donc, dans des communautés de l'Église réformée évangélique, qui étaient des communautés très, très ouvertes. On était tous, les jeunes garçons, on était objecteurs de conscience, on n'était pas du tout dans une Église évangélique comme on les décrit aujourd'hui, hein. Enfin, elles sont pas toutes comme ça non plus, bien évidemment, mais en tout cas, c'était une église qui était une église réformée, qui était plutôt, j'allais dire, classique au niveau théologique, mais rentrer dans l'église réformée avec laquelle j'avais eu beaucoup de liens, beaucoup de relations, n'était pas pour moi un vrai changement d'église. Mais j'ai été obligé de le faire quand même, il faut être clair.
Oui, alors là, dans l'église réformée, il n'y a pas eu de problème. Vous êtes accueilli malgré votre divorce, remariage, etc.
Je vais sortir mon joker parce que je peux pas dire qu'il n'y ait pas eu de problème.
Oui, bon,
parce que autant les choses étaient claires d'un côté, autant les choses étaient plus insidieuses de l'autre.
Oui, ben, y en a beaucoup qui sont passés par là. Je sais de quoi on parle.
Non, mais c'est important. Ça remonte quand même à une vingtaine, 25 ans.
Et
c'est vrai que, voilà, moi je pense qu'effectivement l'Église réformée, les PUDF aujourd'hui, je dirais certainement une des églises, un lieu d'église le plus ouvert par rapport aux questions morales et aux questions de famille, aux questions sexuelles que les autres. Mais à cette époque-là, même si les choses ne se faisaient pas forcément aussi facilement et aussi clairement, voilà, ça a été un parcours un petit peu compliqué.
Ça ne m'étonne pas. Alors donc, trois enfants d'un côté, trois enfants de l'autre, un enfant en plus.
C'est ça.
Finalement, le fait d'avoir été animateur de jeunes, ça vous a aidé pour diriger tout ça, enfin pour co-diriger.
Effectivement, là quand notre dernier fils est parti de la maison pour ses études, je me suis rendu compte que ça faisait 40 ans que je vivais avec des enfants.
Oui.
Parce que enfin, ça c'est mais je sais pas si c'est d'être animateur de jeunes, mais j'ai toujours beaucoup aimé effectivement pouvoir vivre en famille, vivre avec des enfants, avec de nombreux enfants et avec de nombreux copains de nos nombreux enfants.
Voilà, et puis des petits-enfants peut-être maintenant ?
Alors maintenant, j'en ai 4 et mon épouse en a 3.
Bon, bah, donc pareil que les enfants, le même nombre.
C'est
donc,
ça.
c'est très bien, une très belle famille. Alors, on va revenir sur vos actions, mais sur un plan plus personnel, qu'est-ce qui vous poussait ? Est-ce qu'il y a des passages je suppose qu'il y a la Bible, il y a la foi, sinon ça m'étonnerait, la prière, quel passage biblique ? Est-ce qu'on peut être un homme d'action et en même temps contemplatif, la prière ? Est-ce que ça s'accorde bien ? Est-ce que c'est difficile, quand on est dans l'action, de trouver le temps ou l'envie de prier, de se remettre à Dieu ?
Je pense qu'on peut être dans l'action et contemplatif, mais si je parle de moi, je pense que je suis un peu mystique et contemplatif moins. Je crois que c'est Durkheim qui définissait plusieurs formes de spiritualité, notamment j'en ai 3 en tête, il me semble qu'il y en avait une 4e, mais il y a la nature, il y a tout ce qui est religieux, mystique, et il y a aussi l'engagement, la relation. Et je dois dire que je pourrais dire que ce qui m'importe dans la lecture de la Bible, dans la compréhension des textes bibliques et dans la foi et dans ma compréhension de la foi et de la spiritualité, c'est comment ça m'engage, comment ça m'implique, comment ça m'aide à vivre cette relation, comment ça m'ouvre, comment ça me permet d'être en lien. Et c'est là que j'allais dire. C'est dans les rencontres que j'ai eues avec les personnes que je pourrais dire c'était les moments les plus mystiques pour moi. J'ai eu la chance, donc, en travaillant au DFAP, j'étais responsable des envoyés, donc toutes les personnes qui partaient travailler. Donc j'ai beaucoup voyagé et comme les personnes qui étaient au service des églises, qu'on envoyait au service des églises, étaient réparties en général sur l'ensemble des territoires. J'ai voyagé dans ces territoires et j'ai rencontré, j'ai en tête là un certain nombre de rencontres qui sont pour moi des vraies rencontres, des vrais moments de mystiques, spirituels, forts, qui, beaucoup plus pour moi que des temps de prière
lecture de certains textes bibliques qui peuvent être plus décalés.
Je trouve que la lecture des textes bibliques, le travail d'un texte biblique, c'est aussi un moment de rencontre. Ça peut aussi être un moment de rencontre, un moment qui ouvre, qui met en lien, qui tout à coup déplace. Moi, je sais pas pourquoi je crois en Dieu. Je sais pas comment je crois en Dieu. Je sais pas vraiment si je crois en Dieu, en fait. Je peux pas le dire comme ça, vraiment. Mais ce que je sais, c'est que je suis habité par un optimisme, une dynamique qui me fait toujours avancer ou regarder l'autre et je sens bien, je sais bien que cette dynamique là elle est ancrée dans cette parabole biblique, parce que c'est souvent les paraboles, j'aime bien les paraboles parce que justement ce sont pas des définitions fermées et dogmatiques, mais ce sont des mots qui ouvrent, des mots polysémiques, des mots ou des histoires qui nous entraînent toujours ailleurs, qui décalent. Et je sais bien que cette espèce d'optimisme, je le définirais comme ça, qui m'habite, qui me fait être et qui m'a fait être dans des lieux difficiles, effectivement.
Et dans les lieux difficiles, je voudrais qu'on parle aussi de la CIMADE. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est que la CIMADE. Allez-y, expliquez-nous.
Oui, la CIMADE, donc, c'est un organisme qui s'est créé après la guerre. D'abord, on l'oublie quelquefois, mais le premier, c'était d'accueil de réfugiés allemands. Et puis ensuite, donc, c'est un organisme qui s'est, bien sûr, spécificité de travailler sur le droit des personnes qui sont déplacées, qui sont immigrées, qui sont migrantes, et pour essayer que ces droits soient respectés dans notre pays. Donc le travail de la CIMADE est un travail hyper important, rendu extrêmement difficile aujourd'hui, et de plus en plus difficile, et encore plus difficile.
Oui, parce que il faut le dire, c'est la bête noire des gouvernements, surtout maintenant, voire même la victime de la fureur publique quand un immigré, un réfugié commet un crime, c'est la CIMADE qui se trouve accusée de tous les maux.
Tout à fait. La CIMADE, comme d'ailleurs toutes les structures, récemment vient de fermer une association qui s'appelait AMI sur Nîmes, qui a été créée par une certaine Julie Hou, qui, comme la CIMADE, travaillait à l'accueil et à l'accompagnement et essayait de défendre les droits des personnes migrantes, et qui vient de fermer parce que à la préfecture, on lui a répondu la dernière fois, et ça a été le coup de grâce. On lui a répondu vous n'appliquez pas le droit. Et le responsable de la préfecture de Nîmes a répondu, nous, je sais, mais nous ne pouvons pas faire autrement, nous n'avons pas les moyens. Donc on en est là aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui...
Et pourtant l'accueil des migrants, des réfugiés qui viennent et qui continueront de venir, de toute façon, c'est un problème de sécurité publique, c'est un problème d'intégration, c'est un problème... C'est en les accueillant que l'intégration peut se faire. Mais ça, c'est pas possible de faire entendre ça...
C'est tout le fonctionnement des boucs émissaires, je veux dire, il faut être clair, je veux dire, c'est très facile de tout faire reposer, les difficultés, les violences et le mal-être et la mauvaise économie sur des étrangers, c'est très facile, et c'est tout le... Malheureusement, c'est tout ce qui se passe et qui est amplifié encore aujourd'hui dans le monde entier.
Je voudrais qu'on termine en donnant... Est-ce qu'il y a un message message d'espoir? Est-ce qu'il y a un message optimiste vis-à-vis de ce monde où il y a de plus en plus de dictateurs en herbe ou dictateurs confirmés, où les gens se replient sur eux-mêmes, trouvent des boucs émissaires? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui sont tentés par ces expériences?
Vous savez, quand j'étais en Haïti, quand je rentrais, parce que donc ma famille était restée ici, donc je rentrais tous les 2-3 mois, j'ai essayé de revenir, et on me demandait, mais bon, est-ce que ça va mieux? Je dis non, ça va pas mieux. Mais est-ce qu'il y a un espoir que ça aille mieux? Alors, je dis objectivement, je sais pas s'il y a un espoir que ça aille mieux. Mais ce que je sais, ce que je vois, ce dont je suis témoin, c'est qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui vivent, qui aiment, qui espèrent, qui se battent, qui luttent, qui souffrent. Cette humanité-là, elle continue. Alors oui, les conditions, aujourd'hui, on est dans des situations, dans le monde entier, on est dans des repliements aujourd'hui et dans des réflexes racistes, xénophobes et violents de plus en plus, de plusieurs ordres. Oui, c'est difficile, oui, il y a des récessions, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui espèrent, qui vivent, qui croient, qui prient, qui luttent, qui vivent. Et moi, c'est l'espérance, elle est là. Elle est dans cette vie qui, pour moi, c'est le message de la résurrection. C'est-à-dire que même là où il y a la mort, la vie peut surgir.
Bien, merci beaucoup, Philippe, pour ce message. Donc, de la résurrection, du triomphe de la vie. Je remercie nos auditeurs. Je rappelle que j'attends vos réactions au mail unprotestantpeutencacherunautre@radiofmplus.org et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.